es une jeune fille bien élevée, Kiki. Ta maman peut être fière.
Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent.
La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
Les droits des femmes, c'est capital, et dans le tas, il y a des femmes qui n'ont pas de vagin. Si c'est un problème pour vous, buvez un verre d'eau, respirez ou niquez-vous.
Franchement, c'est pas ouf de continuer à produire et à polluer comme ça, par rapport au fait que ça condamne l'humanité à la mort.
Tu vas lire cette formule magique à haute voix avec nous, d'accord?
Formule magique? Vous êtes des sorcières?
Oui, toi aussi.
Enfin, on l'espère.
Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Antidote, l'émission où vous distille des petits tips, des petits conseils pour trouver un antidote, et oui, CQFD, à un poison, une problématique qui pue du cucu. Et pour vous concocter la recette du jour, je suis entourée de la team, du S dans la V, comme disait John.
Oh, wow.
Cécile, coucou Cécile.
Oui, bonjour.
Et Mathilde, coucou Mathilde.
Et salut.
Est-ce que ça va bien?
Oui, très belle entrée en matière, Camille. Excusez-nous, on doit se roder encore sur le générique de début.
J'attendais que ça descende, pas du tout. Bon.
On l'aime trop la chanson, en fait, on n'a pas du tout envie de l'arrêter.
Faisons place à Britney, laissons place.
C'est vrai, elle nous accompagne. Donc super, bah on est en condition pour passer aux choses sérieuses, car ce soir c'est une émission un peu particulière qui se déroule dans le cadre du Festival des Ailes à La Rochelle, le festival qui a lieu chaque année pendant tout le mois de mars et qui rassemble un grand nombre d'événements militants sur l'égalité et la déconstruction des stéréotypes de genre. Pour en savoir plus et découvrir la programmation bien fournie des ailes, je vous invite à vous rendre sur le site du collectif d'Action Solidaire qui rassemble les associations et les structures qui sont organisatrices du festival. Cette année, le thème est « Tissons les résistances pour demain » et c'est ce thème qui nous a inspiré notre poison du jour. Cécile, contre quoi on fabrique un antidote ce soir ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a choisi de répondre à un poison qui nous hérisse les poils et dont l'aspect peut s'apparenter à comme une matière visqueuse et collante, je dirais.
C'est vrai.
Qui nous lâche pas les baskets. Une problématique qui vient titiller nos compétences en champ de lutte féministe et en fabrication de pancartes, et pas que pour le 8 mars. Puisqu'on s'est demandé quelle potion concocter pour savoir comment saigner le patriarcat sans y laisser des plumes.
Et d'ailleurs, les misos, on les met où ?
Dans la soupe.
Ah
oui, c'est
merci.
Vrai. Enfin. Mais quelle surprise, le patriarcat est un poison. Alors ça, j'aurais jamais deviné.
Waouh, spoiler alert.
La grosse révélation ce soir.
Petite précision quand même, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est une émission qui nous aura forcé, je dis bien, à aller regarder qui était Elodie de la Starac versus qui était
Emma Domas.
Emma Domas.
Pour comparer, on a aussi, vous verrez pourquoi, chanté le générique de La Petite Maison après. Enfin, une émission qui promet d'être super. Et donc, je commence tout de suite notre recette par introduire Mathilde qui va nous faire une petite poésie.
Introduis-moi, s'il te plaît.
J'ai introduit complètement Mathilde.
Alors, on m'avait dit, ce serait bien de commencer par la poésie parce que on commence par un truc un peu calme. Je suis pas sûre d'avoir vraiment répondu à la consigne.
Peut-être qu'on a sous-estimé Mathilde.
On part sur du métal.
Disons
bon.
Que sur...
Au bout de 10 ans, c'est... Voilà.
Heureusement que je peux encore apporter mon lot de surprises.
Que tu nous surprends.
Je vous surprendrai toujours. Bon voilà, pour le calme, on repassera, mais vous me direz...
On t'écoute Mathilde.
Si je devais demeurer prisonnière de mon corps, condamnée à revivre éternellement la même scène dans ma chair, sans issue de secours. Si je devais frotter pour qu'il brille les barreaux qui me gardent captive, avoir à me soucier sans répit de ce que je donne à voir, comme quand je me redresse pour me tenir droite. Si je savais que mes angoisses m'escorteront toujours, ombre de misère cousue à mes pieds. Si j'étais forcée de me taire encore, si j'étais contrainte d'obéir, si je devais me soumettre, si je devais oublier le désir, si je devais laisser s'éteindre le feu qui m'anime, sans plus avoir le droit de souffler sur les braises pour le faire repartir, si la douleur était le seul moyen de me sentir vivante, comme le soir où j'ai posé la main sur la paroi en fonte brûlante du poêle, ou la fois où l'huile bouillante a éclaboussé mon bras. Si les piqûres d'ortie et les épines des ronces dans les doigts devenaient monnaie courante. Si je devais passer d'autres nuits sur le sol, à ramper à plat ventre, à vomir à défaut de parler, de crier, incapable d'avaler, de déglutir, de digérer. Si je devais encore céder, tenir dans ma main un seul sexe que je n'ai pas ardemment désiré. Si je devais ne serait-ce qu'une fois de plus embrasser des lèvres que je n'ai pas voulu. Si je devais encore rêver de nombreux lambeaux de peau qui se détachent de l'intérieur de mes joues, de ma bouche, d'une langue limace que je n'ai pas invitée à entrer, si j'étais privée de ma propre langue, si je ne devais plus parler, si je n'avais plus les mots, si je n'étais plus douée de parole, si je ne pouvais plus écrire, plus dire, où réside le mal, où le débusquer là où il se cache, si j'étais encore ne serait-ce qu'une fois silencieux, s'il ne me restait que mon corps pour tracer des signes dans l'espace, alors je danserais ma prison.
Merci Mathilde.
Merci Mathilde. Waouh, ça ouais. Pique.
Allez, ça c'est fait.
Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse la petite revue des podcasts du mois pour savoir qu'est-ce qu'on écoute de nos oreilles ce mois-ci ?
Avec grand plaisir.
Mathilde, qu'est-ce que tu as mis dans tes oreilles ce mois-ci ?
Alors, rapidement, mais j'en ai trois. Le premier, c'est un épisode de Folie douce de Lorraine Bastide qui a invité Charlotte Bien-Aimée, la créatrice du podcast Un podcast à soi sur Arte Radio, à parler de ce que le féminisme fait à la santé mentale. C'était incroyable. Moi, de toute façon, dès que Charlotte Bien-Aimée parle...
Je sais que je suis partie en vacances avec Charlotte Bien-Aimée quand même.
Ok, cette information, je ne vais pas m'en remettre.
On en parlera après.
Ok. Mais... Ensuite, le dernier épisode des Couilles sur la table qui s'appelle Après Mazan, des hommes parmi les autres et qui va être en 4 épisodes. Bon, le premier est déjà une petite bombe.
J'attendais que ça sorte. Eh ben, j'ai pas vu.
C'est sorti.
Ah bah, je veux... Trop bien. Ouais. J'allais dire, je veux voir ça. Pas du tout, je veux écouter ça.
Tu vas pouvoir écouter ça.
C'est sûr.
On entend Manon Garcia qui est exceptionnel parler de, enfin décortiquer tout un tas des filons de ce procès, c'est brillant. Et enfin, dans un tout autre registre, j'ai écouté dimanche un épisode d'un podcast que je ne connaissais pas qui s'appelle Safe Place. Et l'intitulé, c'est « La poésie sauvera le monde ». C'est Douce Dibondo qui est autrice, qui anime cette table ronde avec plusieurs autrices autour d'elle. Et c'est hyper réconfortant. Voilà.
Ah, ok, cool. Trop bien. Merci beaucoup, Camille. Qu'est-ce que tu as mis dans tes oreilles ?
Alors, deux choses. Premier, c'est l'épisode « Sœurs de plainte, des pieds sur terre
ah, »
sur France Culture, qui recueille plusieurs témoignages de femmes victimes de violeurs en série. Et qui évoque la solidarité qui les lie en fait en tant que victimes. J'ai trouvé super parce que bon déjà c'est les voix des victimes, c'est pas si souvent qu'on entend vraiment les victimes parler. On entend plutôt les journalistes décrypter en général. Et du coup c'est pas voyeur en fait. Il y a vraiment un angle qui est différent je trouve des autres podcasts.
Et puis les pieds sur terre quoi.
Ouais. Et c'est bah voilà c'est pour moi, journalistiquement intéressant.
C'est clair. Voilà. Avec un épisode quotidien. Ça, c'est tous les jours, quoi. Ils arrivent à se renouveler et sans jamais tomber dans le voyeurisme.
Oui, il y en aura certainement d'autres. Et la deuxième chose, c'est dans un autre registre complet. Ça, c'est un épisode de 4 quarts d'heure, qui est un podcast que j'adore et je ne suis pas la seule ici, qui s'appelle « Avant de respirer le paillasson », dans lequel une des 4 chroniqueuses raconte, donc Louise raconte qu'elle n'a rien lâché quand elle a poursuivi un gars qui matait et tentait d'agresser des femmes pendant 20 minutes de trajet en métro. Et franchement, pour moi, c'est l'incarnation d'une lutte quotidienne. Elle y a été. Et c'est un épisode qui m'a vachement touchée et travaillée personnellement. Donc, je vous invite à l'écouter. À savoir que c'est aussi un épisode dans lequel une autre chroniqueuse qui s'appelle Kalindi évoque le fait qu'elle a été à l'hôpital après avoir passé la nuit sur un paillasson parce que ça lui a causé une grosse allergie. Donc voilà, vous allez avoir à boire et à manger dans ce podcast. Mais
comme
c'est
d'habitude,
ça qu'on aime.
Dans 4 quarts d'heure, de toute façon.
Et toi, Cécile ?
Moi, j'ai écouté « Ce que je sais d'elle », qui est le titre d'un épisode de Transfert, dans lequel il est question d'un couple parfait, d'une ex qui passe de simple présence à menace, puis d'obsession, à une obsession, pardon. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas spoiler la fin.
Pareil, transfert quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est la base, ouais. Et enfin, Swann Périssé, qui a mis en ligne son épisode enregistré de Il n'y a plus le temps. Puisque Swann Périssé a pris pour habitude, alors oui, déjà elle est incroyable, elle fait partie du générique de l'Antidote, donc voilà. Non, mais en fait, elle avait déjà fait un spectacle quand les législatives avaient eu lieu cet été. En réaction, en fait, elle a écrit très vite un spectacle. Et là, elle dit, je cite, « Quand j'ai vu le salut nazi d'Elon Musk, j'ai eu le choix entre paniquer et écrire un spectacle contre le fascisme. » Bah voilà, c'est 92 minutes de spectacle écrit, co-écrit par Swann Périssé et Matteo Balès, avec plein de guests, Paloma Moritz, Camille de Girl Go Green, Inis Mela, l'humoriste, et la journaliste Salomé Sake, entre autres.
La classe.
Voilà.
Ouais.
Bah ouais, sacré casting.
Voilà pour ceux qu'on vous recommande de mettre dans vos oreilles ce mois-ci. Est-ce qu'on passe à l'ingrédient principal ?
Ah bah oui. On fait ça, oui.
On fait ça ?
Ah bah allez.
Allez. Alors, l'ingrédient principal va être en plusieurs étapes, puisque on va, à tour de rôle, je dirais, décrire un petit peu comment on lutte au quotidien. On s'est rendu compte, en fait, en préparant l'émission, qu'on avait des manières propres à nous, en fait, de lutter, mais qui vont dans la même direction, donc c'est assez rigolo. Moi, je voulais vous parler du micro-féminisme. Est-ce que vous connaissiez déjà, avant qu'on en parle ?
Non, pas vraiment.
Avant que tu nous en parles, non. Effectivement, je n'avais
ça
jamais entendu.
Sens, mais...
Ok. Et ben en fait, le microféminisme, ça vient d'une trend. Alors, excusez-moi, mais sur mes notes, j'ai noté tout est parti d'une trend de Tok Tok. Voilà. Que je dise parce que c'est vraiment très drôle. Donc, tout est parti d'une trend sur TikTok par l'américaine animatrice et productrice Ashley Shiny. Donc c'est avec une vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues, qui a expliqué en fait que quand elle envoie un mail à un chef d'entreprise, en fait, elle met son assistante en premier dans la liste des destinataires et elle dit un truc du genre... en gros, elle dit, c'est comme si je lui disais « Hey, I see you », genre on se sait quoi, tu vois.
C'est brillant.
Donc, elle est partie de ça et en fait, elle a créé vraiment... ça a été hyper viral et donc, en fait, c'est devenu simplement une façon de lutter contre le sexisme au quotidien avec des petites actions subtiles. Alors j'ai trouvé plein d'exemples sur internet, sur les trends du coup. Par exemple, il y a une femme qui dit quand elle demande à quand elle a une conversation où il y a quelqu'un qui dit ah ben je suis allée chez mon médecin, elle dit ah ok qu'est-ce qu'elle t'a dit. Idem ah ben je suis allée voir mon avocat, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé. En fait elle genre tout au féminin.
Très bien ça.
Ensuite, il y a aussi l'exemple de la crèche où dit quelqu'un qui dit je travaille en crèche et j'ai pour règle de toujours appeler le papa quand un enfant est malade. Et souvent, malheureusement, on me répond ah bah appelez ma femme, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Donc on parle de la santé d'un enfant quand même.
Ah non, mais on parle de ça un enfant quoi.
Voilà.
Sachant que très souvent, les pères se mettent spontanément en parent 1 dans toutes
c'est
les fiches de renseignement. Je vous le dis. Voilà,
oh, wow.
Parce que je fais ça, moi aussi, j'appelle systématiquement les pères en premier quand j'ai un enfant malade à l'école, et d'autant plus qu'eux-mêmes demandent à apparaître en parent 1. C'est
ah ouais,
drôle.
C'est fou, c'est encore plus fou alors. Bon, évidemment, il y a prendre la place dans les transports quand on a du mansplaining à côté de soi. Ça peut être recommander des livres et des podcasts uniquement créés par des femmes, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être aussi le fait d'apporter encore plus d'importance à une femme qui vient de se faire couper la parole en réunion, par exemple. Moi, en général, j'ai tendance à pas regarder l'homme qui vient de couper la parole pour ne pas lui accorder d'importance, continuer à regarder la femme qui s'est fait couper la parole et lui demander de continuer son propos, en fait. Comme ça, au moins...
Je suis un peu déçue parce que moi, je travaille avec des filles, donc jamais j'ai l'occasion de faire ça. Dommage.
Bah, écoute, on peut te rendre compte de ce qui arrive.
C'est dur ce que tu vis.
C'est horrible. Non, mais par contre, je l'ai vécu avant, donc ça va.
Est-ce que vous avez des exemples de micro-féminisme au quotidien ?
Je cherche depuis tout à l'heure, mais étant dans un environnement féminin pas mal, j'avoue que la femme, elle a tellement... Enfin, dans mon travail, elle a tellement de place que alors, j'ai pas d'exemple concret.
Et vers l'extérieur,
bah, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Parce que moi, par exemple, je mets tout le temps les femmes en premier dans les destinataires.
Ouais, bah pareil. Moi, je mets toujours les femmes en premier dans un mail et je commence toujours par madame, monsieur.
Ouais,
en...
le prénom de la femme et
ouais,
après.
Ça, c'est clair.
Oui, ça, oui, mais j'ai pas beaucoup d'hommes, vraiment pas beaucoup. Par contre, ce que je fais, c'est que aujourd'hui, j'essaye de, à l'inverse, pas genrer au féminin les professions typiquement féminines. Genre les personnels qui
soignants.
Ouais, les personnels soignants, les personnes qui font le ménage au bureau. Mmh. Ça, je me corrige systématiquement. Okay. Au moins pour moi, c'est important.
Et moi, j'utilise l'écriture inclusive le plus possible.
Oui, bah ouais, pareil.
Et
sûr.
Notamment les autres d'emploi. À l'éducation nationale où c'est interdit.
Ah, mais non. Sérieux ?
Mmh. Et interdit d'utiliser l'écriture inclusive.
Ah bah oui.
Mais oui.
Ouais. Voilà. Bah moi, je fais tout le temps. Et j'ai remarqué que mes collègues le faisaient plus depuis que j'étais arrivée au bureau. Mmh. Ils m'ont dit, en fait, on le faisait pas autant avant que tu sois là et tout.
C'est beau.
Du coup, on voit que dans tes mails, tu le fais. Donc, voilà. Donc, c'est un petit combat. Après, il y a un truc que je fais. Je l'assume à demi-mot. Donc, si mon patron, là, écoute, si mon directeur, écoute, je sais pas s'il faut vraiment que t'écoutes ça. Mais il a pu m'arriver à des moments donnés de réduire la taille de police des noms des personnes de genre masculin dans les présentations. Voilà, j'ai pu le faire. C'était 0,5 points de police, de taille de police. C'était pas grand chose.
Moi, j'aime bien ça.
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup.
Mais ouais, mais ça fait du bien. Enfin, dites-vous, s'il y a des hommes qui écoutent, qu'on se fait marcher sur la gueule en permanence. Ouais. Donc nous, on essaye des fois par des moyens qui peuvent paraître mesquins. Ouais. Mais en réalité, c'est les seuls moyens qu'on a aussi au quotidien de lutter comme on peut, quoi. Et ça passe par là.
On va pas se mentir, hein, l'enfant qui me dit « Et pourquoi il n'y a pas une journée pour les droits des garçons ?» Je dis « Parce qu'en fait, c'est les 364 autres jours de l'année. Hein » Donc, voilà.
Bah oui. Ça, c'est sûr.
Ouais. Et oui. Et dernier truc, et après, je cède la parole. Il y a aussi un petit truc avec les tâches un peu ingrates données tout le temps aux femmes. Donc, en général, quand il y a des femmes et des hommes dans une boucle de mail, j'essaye de faire en sorte que ce soit eux qui fassent les tâches ingrates, du genre créer un lien de visio, par exemple. Mmh. C'est un truc tout con, mais voilà. C'est eux qui le
complètement,
font.
Complètement.
Ça leur fait les pieds un peu.
Non, mais c'est bien aussi d'aller dans des choses subtiles, je trouve. Parce que moi, j'avais tendance à faire ça en essayant de leur faire faire le café. Mon ancien taf, je n'ai jamais réussi.
Et puis, c'est si pour que le café soit dégueu.
C'est vrai.
Voilà. Non, ça ne doit pas être une raison.
Alors, bah, c'est tombe bien qu'on en parle parce que.
Parlons
moi,
du café.
Je ne fais pas beaucoup ça, malheureusement. Mais je vais essayer. Je vais faire ça comme un programme de sport.
Mais t'as d'autres manières de lutter.
Mais bien sûr, j'ai d'autres manières de lutter. Alors moi, j'ai l'impression d'être une mauvaise militante. C'est parce que j'ai pas tendance à intellectualiser mon féminisme, en fait. Je participe pas à des événements ou des manifestations. Je fais même pas partie d'une asso, ce qui est un petit peu dommage.
Non, mais je suis pas sûre que ça soit ça qui fasse de toi une mauvaise féministe entre nous.
Oui. Mais du coup, il y a aussi cette vision du militantisme. Mmh. Et moi, je rentre pas dans ce militantisme-là. Et du coup, je me demande souvent comment saigner le patriarcat sans y laisser des plumes, parce que c'est aussi parce que je suis très touchée par les situations et j'ai du mal à m'impliquer intellectuellement dans des assos et tout, parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et ma réponse, je la trouve dans mon quotidien et dans mon rapport à mon entourage. Alors, j'ai une technique d'animal sauvage en chaleur que je vais simplement faire breveter, et donc je voulais vous parler. Alors, c'est en plusieurs phases. Première phase, elle est assez passive.
Elle fait un tuto.
C'est génial.
C'est un tuto. La première phase, elle est assez passive. Je l'ai appelée la parade. C'est celle où, en gros, j'arrive dans un groupe social que je connais pas. Souvent plutôt au travail. Et là, je me mets à incarner la figure bobo féministo gaucho, avec toutes les critiques et toutes les incompréhensions ou réticences que ça suscite. Dans des comptes, enfin voilà, donc j'accepte cette
position. Jusque-là, je vois très bien ce que tu veux dire.
Voilà, j'accepte cette position. Deuxièmement, on rentre dans la phase reniflage de cul. Donc, une fois que tout le monde a bien capté que mes valeurs c'était d'être une bobo féministo gaucho, il se passe toujours la même chose. C'est d'abord j'entends des critiques, et ensuite les femmes elles viennent se confier à moi, et les hommes ils viennent essayer de réfléchir. Il pose des questions pour essayer que toi tu les éduques. Il me provoque, voilà, c'est ça. Mais au moins il se passe quelque chose. Et là, bam, c'est la dernière phase, la phase du passage à l'acte. Je vous laisse imaginer. Et donc là, je deviens militante parce que quand je vois une brèche, en gros, je m'y engouffre. Donc j'essaie de provoquer des petites prises de conscience. Ça a pas besoin d'être énorme, mais si les personnes se posent des questions sur la manière d'agir de certains hommes ou sur les inégalités, bah moi je suis déjà contente en fait. Et donc pour vous citer deux exemples, le premier c'est que dans mon ancien taf qui était essentiellement masculin, où la femme faisait le café, et je suis sûre que c'est toujours le cas, et les hommes étaient les intellectuels qui sauvaient la planète, quoi. J'avais commencé à établir le fait que j'étais une féministe féministe, et j'avais eu des débats et tout, c'était très compliqué. Et toutes les femmes autour de moi comprenaient pas ma position. C'était des femmes, oui, qui étaient plus vieilles.
Ça s'appelle de la misogynie intégrée. Ouais.
Et elles ne comprenaient pas pourquoi il y avait une lutte, elles ne la voyaient pas. Mais n'empêche que, comme j'étais identifiée comme ça, dès qu'il y avait une injustice dans le travail, elles m'en parlaient, ce qu'elles ne faisaient pas avant.
Ok, ouais. Donc, t'as libéré la parole.
Voilà, donc quand il y avait quelqu'un qui leur disait de faire du café, elles me disaient « Putain, t'as vu, il m'a encore dit de faire du café, ce bâtard. »
Ça les avait éveillées quand
même. Et ça les avait un peu éveillées. Ouais. Il y avait quand même un débat qui s'était créé, quoi. Ça, c'était ma première victoire. J'étais vraiment contente de provoquer ce petit truc-là. Et la deuxième chose, le deuxième exemple le plus récent, c'est que j'ai une amie qui est sortie avec une énorme merde. Et vraiment le mec toxique, jaloux, qui lui prend son portable, qui la prive de liberté, enfin voilà. Et j'ai essayé d'être là, en fait, dès qu'elle a commencé à se poser des questions, sans jamais être trop frontale, parce que mon idée, c'était pas de blâmer le mec, en fait, c'était de lui faire prendre conscience qu'il y avait un problème. Et aider aussi, quand elle a été prête à sauter le pas, d'aider à trouver des solutions matérielles. Cécile a participé aussi autour de cette table.
Par exemple, lâcher un appart à quelqu'un qui en a besoin parce qu'elle est avec quelqu'un de toxique et que... Ouais. Ça peut être une action féministe, par exemple, plutôt que de le mettre sur le bon coin et de le chercher avec les annonces.
Ouais, voilà. Tout à fait. C'est choisir à qui on cède le bien, je trouve que c'est important. Et donc, aujourd'hui, elle est sortie d'affaires, en gros, et même, je pense qu'il y a une prise de conscience, et je me dis peut-être j'en ferai une militante demain, qui sait. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans ce féministe, c'est qu'il est, il n'est pas politique, mais il est accompagnant, il est concret et il est adapté à mon fonctionnement. Alors comptez sur moi pour agir dans l'ombre, tel la Zorro du féminisme en fait.
Est-ce que tu pourrais nous faire une petite vidéo de mise en situation de toutes les étapes de ce DIY, s'il te plaît?
Avec une illustration, bien sûr, des marionnettes, pourquoi pas, pour illustrer toutes les situations.
Mais même en conditions réelles, moi je veux bien jouer un rôle s'il faut.
Quand on aura un Instagram, on jouera des
scénettes. Ouais, moi je suis prête.
J'aurai un costume de pan pour illustrer tout ça. qu'est-ce que vous pensez de ta technique? Est-ce que j'en fais un essai, du coup? Une vidéo, du coup?
Oui, ouais.
Complètement.
Ouais. Ouais, ouais.
Moi, je suis pour ça.
En trois volets.
Ah, super. En tout cas, sachez que c'est aussi une technique que vous pouvez utiliser en soirée sur une hymne puissante, par exemple, féministe, par exemple, et queer, par exemple, comme celle de Gloria Gaynor, I am what I am.
I am what I am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
sang dans les veines.
Purée. Je disais, hors micro, que j'ai l'impression d'écouter Denver le dinosaure féministe. Quand j'écoute
Denver le dinosaure féministe.
Oui, c'est très précis. Denvera. C'était évidemment Gloria Gaynor et non Denver le dinosaure pour I Am What I Am. Voilà, on s'en lasse jamais en fait.
Ouais, c'est clair.
Je pense qu'on passe un petit peu à Mathilde maintenant.
Allez, soyons fous.
Passons
un petit peu.
Je suis désolée, je te donne un peu la parole.
C'est mon pire lancement depuis toujours.
C'est parfait. Non, du coup, moi, ça m'évoque quand même un truc, c'est que pendant un moment, je me suis vraiment demandé quel était mon terreau militant, ou en tout cas, quel était le terreau militant dont j'avais besoin et dont j'avais envie, parce que je me retrouvais pas forcément tout le temps dans les collectifs.
Ah, c'est une vraie question, hein.
Ouais, ouais. Existants autour de moi. Alors, je trouve ça génial qu'ils existent.
Ils sont nécessaires.
Voilà, ils sont nécessaires.
Mais c'est pas fait pour tout le monde, je pense.
Voilà. Et moi, ce qui me manquait, et ce que j'ai pas encore trouvé pour l'instant, c'était le côté. Moi, je pense que j'ai besoin, à un moment donné, de pouvoir. Être dans de l'écoute et dans de l'accueil, même de témoignages, même de choses pénibles à entendre. Et pour l'instant, sur La Rochelle, bah, y a pas tant que ça d'instances qui existent. Alors, j'espère de tout mon cœur que le planning familial va finir par arriver bientôt chez nous. Et clairement, ça, je pense que c'est un organisme dans lequel je me verrais bien être bénévole. Militante, mais en attendant, en écoutant un des derniers épisodes qui a conclu le cœur sur la table, Victoire Tuaillon, elle a dit un truc hyper important et là ça a fait exploser mon cerveau en entendant ça. Elle a parlé d'éducation et là je me suis dit mais Mathilde, en fait, le voilà ton terreau militant.
Mathilde,
bah oui.
Mais oui. Mais
elle a tout connecté.
Mais bon, enfin.
C'était sous tes yeux, quoi.
Voilà. Donc, je me suis dit, bah oui. Mais c'est bien sûr l'éducation. concrètement, ça passe par des petits gestes simples, hein, je pense qu'ils pourraient s'apparenter à du microféminisme aussi. Ça va être faire attention à donner la parole en priorité aux filles qui sont souvent bien dans leur rôle, discrètes, calmes, même quand j'ai des zigotos qui gesticulent dans tous les sens, en levant les deux bras en l'air, en agitant les mains. Moi, moi, moi.
Les gens avec l'ardoise là, les mecs avec l'ardoise là, c'est un traumatisme. Je sais pas si vous l'avez, mais
les mecs avec l'ardoise.
Mais quand il y avait des problèmes de maths, bon déjà faut arrêter de faire ça. Hein, je vous le dis au prof, mais ils levaient toujours trop vite l'ardoise et moi j'avais pas le temps de réfléchir.
Ouais. Ça c'est pénible. Hein. On est d'accord. Mais même sans même parler de ça, je t'assure que des fois au quotidien c'est dingue. Et en ayant fait intervenir des gens de l'extérieur dans la classe, mais c'est fou de du coup quand tu te mets un peu en recul en tant qu'enseignante et que tu regardes faire et pourtant, des personnes qui sont elles-mêmes très sensibilisées à tout ça, qui se retrouvent un peu piégées, de manière c'est totalement inconscient, mais qui vont donner spontanément la parole à celui qui l'a déjà eu 10 fois en un quart d'heure et qui effectivement gesticule avec son t-shirt orange. Donc on voit que lui, ça aide pas, c'est vrai.
Le gars est un panneau de signalétique.
Et toi, t'es en fond de classe et tu te dis waouh, ouais, mais elle, en fait, ça fait un quart d'heure qu'elle a le bras en l'air et qu'elle est pas loin de la crampe et qu'en fait, comme elle dit rien. Elle peut attendre longtemps. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des classes, même des fois de collègues, où je me rendais compte que les garçons prenaient une place folle et de dire aux filles, ça va, vous le vivez comment? Parce que concrètement, il n'y a pas d'espace quoi, pour vous. Donc ça, c'est des choses, voilà, j'essaye d'agir là-dessus, comme ce qu'on disait tout à l'heure, appeler en priorité le père avant d'appeler la mère si un enfant est malade. Encourager l'expression des émotions, ça j'ai envie de dire, tant pour les garçons que les filles, mais j'insiste quand même grandement sur certaines émotions connotées un peu comme étant féminines, comme la tristesse, la peur, sur le fait que les gars ont le droit de pleurer. Alors je sais très bien que les gars que j'ai moi à l'école n'entendent pas forcément ça en dehors, quoi. Donc ça...
Ouais, ouais. Et puis ça, enfin pardon, je te coupe.
Non, vas-y.
Moi, je l'ai remarqué aussi dans la rue quand tu entends les parents s'adresser aux enfants, y a un truc vraiment où ils s'adressent aux filles avec un peu un ton mielleux tout le temps. Et les petits gars, c'est tout le temps mais c'est bon, tu vas pas pleurer.
Tu vas pas pleurer pour ça, t'es pas une fille.
T'es pas un bébé, t'es pas une fille et tout. Et vraiment, quand on y apporte de l'importance, c'est vraiment flagrant.
Ah, c'est hyper flagrant. Et tout comme de pas blâmer une fille parce qu'elle se met en colère, mais ça, malheureusement, peu de situations comme ça. J'ai vraiment très très peu d'exemples de crises de colère chez des filles à l'école, là où chez les gars, ça va être du quotidien. Mais par contre, voilà, à encourager ces expressions d'émotions-là, et les quelques fois, ça m'est arrivé d'avoir des garçons qui ont pleuré dans la classe parce que vraiment triste d'une situation, et à me dire, purée, pour moi, c'est une victoire que d'avoir pu créer cet espace où des garçons se sentent suffisamment en sécurité pour savoir qu'ils ont le droit de pleurer sans qu'on se moque d'eux. Bon, je ne dis pas que ça arrivera dans leur quotidien tout le temps en dehors, mais c'était déjà des sacrés pas.
Ouais.
Et puis après, c'est aussi beaucoup de débats sur les stéréotypes entre filles et garçons. C'est faire les séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle que beaucoup d'enseignants ne font pas faute de formation. Et je ne les blâme pas pour ça. Je sais combien c'est compliqué. Il faut être armé aussi pour répondre à des parents qui sont de plus en plus virulents. Là, en ce moment, il y a des manifs qui s'organisent pour que les parents retirent leurs enfants de l'école à cause des séances du coup d'éducation.
Non, mais ça prouve eux-mêmes ce qu'ils ont vécu, quoi.
Bien sûr.
Ça prouve le fait qu'ils ne soient pas sensibilisés à ça, qu'ils n'y aient pas accès. Ils n'y ont pas eu accès, en fait.
C'est ça. Ils ont peur. Et
c'est de la peur et c'est de l'incompréhension.
Exactement.
Et au lieu d'aller essayer de... J'allais être véhémente, mais je vais essayer de ne pas l'être. De combattre tout ça et d'aller au-dessus et d'aller essayer de comprendre, on préfère être dans le soi-disant la protection de son enfant, alors qu'en fait, ça ne protège pas du tout son enfant. Quoi.
Pour avoir du coup tenté aussi
de
comprendre
ce
qui se passe, c'est qu'il y a énormément de récupération politique là-dessous, qu'on se le dise. Ouais. Ça fait jubiler tout un tas d'organisations, parce que la peur, c'est quand même le meilleur moyen de manipuler, qu'on se le dise. Et puis les réseaux sociaux nous aident pas non plus, parce que quand on tape le sigle Evras, par exemple, donc d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle sur les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'on entend des trucs complètement délirants. Donc il faut débunker ça auprès des parents, c'est clair, mais c'est tellement nécessaire de le faire. Ça passe aussi par les règles de grammaire. Enfin, moi, je vois des enfants qui vont systématiquement utiliser le il, même quand il s'agit de femmes, où je leur dis bon les gars, en fait, déjà que sur un groupe de 150 personnes, s'il y a 149 femmes et un homme dans le lot, on va basculer sur un il, alors s'il te plaît, quand il ne s'agit que d'une femme, tu me feras le plaisir de me mettre un L là où il faut. Donc on parle des règles de grammaire, et puis j'accueille le sentiment d'injustice chez mes consoeurs. N'est-ce pas? Et puis il y a une vigilance, et ça va nous permettre de glisser sur un autre point, c'est que c'est pareil, dans les manuels, beaucoup de ressources sont issues de d'hommes, d'auteurs, de chercheurs, de poètes, hommes.
Poétesse.
Non, mais justement.
Ah, de poètes, pardon, excuse-moi.
Voilà, ça y est, c'est mon côté. Justement, je disais qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent beaucoup de place dans les manuels, l'idée, c'est effectivement d'aller chercher, même si ça demande un effort effectivement supplémentaire, d'aller chercher des ressources essentiellement issues de femmes, d'autrices, de poétesses, ou bien en tout cas, sinon, si, parce que ça m'arrive quand même encore là en ce moment, on apprend un poème, et c'est un homme, certes, mais c'est un homme racisé. En tout cas, de mettre en avant des minorités. Si jamais ça doit être des hommes, de faire en sorte que ça soit des hommes qui en tout cas, par exemple, pour Aimé Césaire, qui a été invisibilisé une partie de son existence. Et ça nous amène effectivement à cette question de la consommation de contenu, et pas qu'à l'école, bien entendu, dans notre quotidien, dans nos façons de lutter. Je sais que c'est le cas aussi, Cécile et Camille, pour vous, d'avoir une vigilance au contenu que vous pouvez lire, écouter, à cette importance que ça peut avoir de rendre visible le travail des femmes.
Ouais, complètement.
Moi, c'est venu petit à petit. C'est venu surtout ces dernières années, notamment parce que je partage la vie de quelqu'un pour qui c'était important. Et en fait, je me suis aussi nourrie de ça. Et en fait, petit à petit, c'est vraiment dans toutes les sphères. Enfin, c'est rentré dans toutes les sphères de ce que je consomme. Au départ, ça a pu être des livres ou des films, par exemple. Et maintenant, c'est même dans ma consommation de Twitch, par exemple.
Ouais. Mmh.
C'est-à-dire que j'ai du mal à m'avouer maintenant qu'il y a des mecs streamers que j'adore. Et ouais. J'ai même du mal à les regarder. Mmh. Et pourtant, j'adore leur contenu. Et pourtant, je vais quand même aller regarder des femmes qui streament pour leur apporter ma petite visibilité. Et parce que j'adore ce qu'elles font, évidemment. Et aussi sur les jeux vidéo que je consomme, s'il n'y a pas une thématique féministe ou queer qui est dedans, j'ai encore du mal à y aller. Enfin, j'ai plus de mal à y aller maintenant, alors qu'avant je m'en ouais. foutais, quoi. Mmh. Et c'est dur parce qu'en plus c'est pas du tout un domaine où... Enfin, c'est en train d'arriver.
Bah, bien sûr, oui, il y a qui à la base.
C'est pas du tout un domaine à la base où c'est le cas.
Ouais.
Après, il y a un truc qui m'a énormément aidée sur ça. C'est le Lézard Festival, qui est un festival qui a lieu tous les étés depuis 5 ans, je crois. Dans un bled paumé à côté entre Poitiers, Châtellerault et La Roche-Posée, et qui met en avant que des artistes soit femmes, soit queer, soit trans, voilà. Et en fait, il y a un marketplace qui est entièrement dédié aux cultures queer, féministes et des minorités minorités tout court d'ailleurs. Et en fait, d'évoluer dans ces sphères-là font que petit à petit, mes algorithmes de réseaux sociaux ont changé. Et du coup, bah maintenant, j'arrive plus facilement à trouver des œuvres créées par des femmes, que ce soit de l'illustration, des livres, des BD, des romans graphiques, etc.
Et c'est un peu ça. Voilà. J'allais dire, moi, effectivement, c'est pas forcément venu d'une décision prise de ne plus consommer que... et puis d'ailleurs, c'est pas le cas. Ça m'arrive encore d'écouter des choses produites par des hommes. Mais c'est plus par la force des choses où je me suis rendu compte... par les milieux que je fréquente, par les personnes que je fréquente, les algorithmes qui changent aussi, par le contenu que je vais chercher, qu'en fait petit à petit j'ai eu le sentiment que il y avait une présence féminine beaucoup plus importante dans globalement tout ce que je consommais, ce que j'écoutais, etc., et ce que je lisais. C'est plus dans ce sens là que ça s'est fait.
Et surtout, on se rend compte d'autant plus quand on fait ça d'à quel point quand les contenus créés par des hommes sont marqués par les hommes, en fait, et leur vision. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui saute aux yeux après, quand on sort de ça.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, d'autant plus que... Enfin, moi, personnellement, je pense que je consomme du contenu féminin, féministe, parce que je préfère, en fait. Enfin, vraiment, c'est même pas... Je suis en train de me rendre compte, j'avais jamais conscientisé ça. Mon Insta, c'est un feed d'artistes féminines plus brillantes que les unes que les autres. Twitch... Je regarde aussi des lives et je regarde que des femmes. En musique, je pense que c'est plus varié. Ouais. Et en livre, plus ça va, plus j'ai de la SF féminine. Donc vraiment, ça me touche plus. Enfin, je pense que c'est plus en lien avec la personne que je suis, quoi. C'est-à-dire une femme dans un monde d'hommes. Mais ouais. Donc ça me parle complètement aussi. C'est vrai que c'est un militantisme non conscientisé, mais... Ouais.
Mais qu'il devient, du coup, c'est
cool. Oui, qu'il devient, ouais.
Carrément.
On s'écouterait pas une femme.
Allez.
Une femme qui est DJ, d'ailleurs, qui fait de la musique électronique, qui s'appelle Irène Drezel, avec Mush.
Faisons ça.
Irène Drezel avec Mush. Et puis je vous propose qu'on passe aux petites recos culturelles de ce mois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Allez.
Mathilde, qu'est-ce que tu nous conseilles ce mois-ci ?
Alors, d'abord, un petit ingrédient un peu qui envoie, quoi. dire ça comme ça.
Elle tise, truc,
le piment, quoi, vous voyez, dans, le, okay. dans
appétit,
notre recette.
Ça pétille dans ouais. la bouche.
Exactement. Ça chauffe même un peu. Hein. Mm. Je vous proposerai un recueil qui s'appelle « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots ». C'est un recueil de poèmes d'autrices féministes américaines, parmi elles Audre Lorde, Bell Hooks, voilà, pour n'en citer que quelques-unes, mais aussi, je vais y arriver, Dorothy Allison. Donc, des meufs incroyables, en fait, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen d'entrer en poésie de manière... bah dans la lutte, en fait. Voilà, donc, ce recueil. Dans un tout autre registre, j'ai lu dernièrement deux livres incroyables. Un qui s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous » de Clara Arnault et qui raconte plusieurs points de vue autour des ours, et ça sera aussi un petit clin d'œil à ce dont je vous parlerai juste après. Ça se passe dans les Pyrénées. Et on a un livre qui confronte le point de vue d'un homme qui part en estive garder des brebis après un accident qu'il y a eu. On n'en sait pas trop plus, on sait que c'est un rapport avec les ours. On a une jeune femme qui, elle, travaille dans un programme de réintroduction des ours dans les Pyrénées. Et un ancien... un point de vue très ancien qui date dans le passé d'un jeune qui veut capturer une petite ours pour devenir montreur d'ours. Un métier qui, heureusement, n'existe plus. Mais voilà, ce livre fait se confronter ces points de vue-là. C'est hyper intéressant. Ça a démarré une espèce de petite obsession chez moi, dont je vous parlerai tout à l'heure.
Ça y est, elle va partir.
Ouais, je suis
elle
partie
partir,
loin déjà.
Là. On la sent, elle est en train de partir.
Et oui. Donc ça, c'était le côté ours. Et pour le côté loup, il y a un très beau livre qui s'appelle « Je pleure encore la beauté du monde » de Charlotte McConaughey et qui, là, parle des loups dans les Highlands en Écosse. Là où, alors, c'est pour l'instant complètement utopiste parce qu'il n'y a plus de loups dans les Highlands depuis bien longtemps en Écosse. Mais voilà, on a le droit de rêver un petit peu. Voilà. Pour ma part.
Okay. Tu as fait tous les prédateurs des moutons, sauf le renard. Mais
et après, je vous parle des moutons.
Ce sera pour après.
Trop bien. Et toi, Camille ?
Alors moi, je vous invite à lire la bande dessinée Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda aux éditions
évidemment.
Une case
mais
en moins.
X10, x1000, x10000, x1 million en fait.
Tout à fait. Vous la connaissez déjà peut-être puisque c'est un best-seller. Tant pis pour l'amour, c'est le témoignage de l'autrice qui a été victime d'un pervers narcissique. Alors je sais qu'on emploie ce terme à tort et à travers maintenant, mais là c'est un vrai, il est 100% certifié.
Ah oui là.
Parce que déjà, parce qu'il rentre dans un schéma précis, voilà, donc que je vous laisserai découvrir. Juste un petit disclaimer parce que elle décrypte toute sa relation a posteriori et donc tout le mode opératoire du pervers. Moi j'ai tendance personnellement à m'en servir comme outil pour les copines justement qui sont en train de prendre conscience qu'elles vivent un truc pas normal. Par contre attention, c'est un petit peu violent. Je vous recommande pas de l'offrir à quelqu'un qui est sous emprise parce que je pense que ça aura un effet contraire. Donc voilà, c'est une manière douce entre guillemets de prendre conscience, mais ça en est quand même une et ça peut être ça peut être un petit peu violent pour quelqu'un. Voilà, Cécile.
Moi deux choses comme toi sur un basique le livre Le cœur sur la table qui résume tout le podcast de Victoire Tuaillon qui pour le coup peut être offert à quelqu'un qui sous commence à réaliser conscience. Des choses. Et ensuite, je voulais vous parler de La Bonne Auberge parce que j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'était dans Brise-Glace. Je suis allée voir La Bonne Auberge, donc c'est du jeu de rôle sur table Et non pas du jeu drôle, mais du jeu de mais rôle.
Est-ce que c'est pas drôle aussi?
Et c'est très drôle.
Bon, alors.
Donc c'est un peu particulier. Voilà, on incarne des personnages, on doit faire des actions avec des dés. Voilà, bon, si vous savez parce que c'est YouTube et votre ami. Mais en fait, en ce moment, ils sont en train de faire un financement participatif pour lancer leur propre plateforme de VOD, de jeux de rôle et autres jeux de société / podcast complètement indépendante de YouTube, Twitch et autres plateformes qui appartiennent aux GAFA. Et donc là, ils sont pas loin d'avoir récolté 200 000 euros sur les 300 000 escomptés. Et surtout, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est des gens qui sont très engagés, notamment parce qu'il y a toute une première campagne qui a été faite qui s'appelle D&D Drag, avec des drags, notamment Soa de Muse. Et j'ai oublié les autres, je suis désolée, mais notamment d'autres qu'on a vus dans Drag Race France. Une campagne qui est une vraie pépite et dont le dernier épisode est plein d'émotions, donc vraiment jetez-vous dessus. C'est une très bonne manière de découvrir le jeu de rôle. Et parce qu'il y a aussi une saison de Lord Ali, qui est une autre campagne, qui est jouée uniquement par des femmes, avec une maîtresse du jeu, du coup, puisque c'est, on dit un maître du jeu, une maîtresse du jeu. Voilà, donc c'est porté par Lucien Men et Max Mammouth, c'est deux hommes, mais c'est deux hommes, pour le coup, qui sont vraiment des alliés. Donc, et c'est pas souvent que je dis ça, donc franchement...
qu'il y ait de la mixité quand même dans le...
Ils essayent de faire en sorte qu'il y ait de la mixité, et sur leur campagne principale qui s'appelait du coup La Bonne Auberge, il y avait notamment Pénélope Bagieux,
qu'on est obligé de citer ce soir.
Qui a écrit notamment Les Culottés.
Et est-ce que vous avez vu, vous, la série Adolescence sur Netflix qui est sortie?
Non,
j'ai regardé le teaser. Là, quand je dis que c'est beaucoup trop pour moi, c'est beaucoup trop pour moi. Okay. Je vais pas réussir. Je sais que je vais pas réussir à regarder. Ça va me toucher.
Ok. Voilà. Donc une éventuelle autre proposition. Donc c'est sorti sur Netflix là tout récemment. C'est une mini-série. Hein. C'est 4 épisodes qui clairement dérangent fort, qui bousculent bien comme il faut, mais qui nous poussent grandement à réfléchir à l'éducation des enfants et notamment des ados, à la vulnérabilité. Alors de tous, filles. Comme garçon, mais là en l'occurrence, à la vulnérabilité des garçons face à tout ce qui est sphère masculiniste et comment effectivement un jeune de 13 ans peut basculer dans ces sphères-là, la manosphère, je crois qu'on dit, pas dire de bêtises. Et puis la vulnérabilité des filles d'être confrontées à ces comportements ultra sexistes et ultra problématiques hyper jeunes et qu'elles peuvent pas s'expliquer et qu'on s'explique. Nous-mêmes difficilement, donc autant dire qu'à 13 ans, comment l'expliquer? Et comment on éduque nos enfants avec Internet en sachant qu'ils ont entre les mains autant une fenêtre sur le monde qu'une bombe à retardement? Parce que cette série, elle met quand même grandement en avant le fait que le danger vient pas toujours de l'extérieur comme on peut l'imaginer, quoi. Le danger, il est parfois bien à la maison.
Ah ben ça, c'est certain.
Bon. Ok. Une petite musique peut-être, Mathilde.
Ouais, moi je vous propose, avant de vous emmener à la ferme, d'écouter Fusée de Laura Cahen, issue de son dernier album.
Construire Greta et moi.
7.
Rosoléon.
6.
Sira danser.
5.
Et vous sur la lune.
4.
Déciderez.
3.
1. C'était Laura Cahen avec Fusée.
Trop bien.
On
merci
arrive
Mathilde.
À la fin de cette émission. On vous invite grandement à piocher dans notre grimoire pour trouver comment saigner le patriarcat sans y laisser des plumes, trouver de la joie dans vos luttes, utiliser la colère comme moteur, lire plein d'autrices, de poétesses, écouter des chanteuses, rendre visible le travail des femmes, et puis privilégier aussi les micro-gestes du quotidien. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle que le festival des ailes à La Rochelle, il dure tout le mois de mars et qu'il a pour thème « Tissons les résistances pour demain ». Pour nous réécouter, rendez-vous mardi prochain de 19h à 20h sur 95.9 et puis en podcast sur radiocollège.fr. On vous donne rendez-vous le mois prochain et on vous fait plein de bisous magiques.
Bisous.
Bisous magiques.